Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sais-tu?
Alors, je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Nous allons faire deux lectures, s'il vous plaît. Une première lecture, simplement un passage très bref, très court, dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 11. Et ce sera simplement les dernières lignes du verset 19. Voilà, c'est le principe que nous allons méditer ce matin. Il s'agit tout simplement de la sagesse. Alors, dernière partie du verset 19, Matthieu 11, c'est Jésus qui dit cela à la suite d'une parabole. « Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Je rappelle, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et puis maintenant, nous allons tourner les pages de notre Bible et revenir, aller dans le livre des Proverbes, un texte que nous avons peut-être lu, mais qui reste quand même assez méconnu, et j'aimerais justement apporter le message, la réflexion sur ce texte, particulièrement, c'est Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 1er. Alors, le personnage dont il est question, c'est un quasi-inconnu. Vous connaissez Agur ? Non, vous ne le connaissez pas personnellement. Bon, alors on va le découvrir. Et vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Alors, il s'agit d'Agur. Alors, parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Ithiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père, et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure, et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains, et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives, et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre, et les indigents parmi les hommes. La sangsue a deux filles, donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Voilà, que Dieu nous bénisse. Vous connaissez un peu le texte? Oh, il y a un verset que vous connaissez, hein, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse ». Ça, je crois que ça fait partie quand même des grands classiques. Alors, nous allons parler de la sagesse. Parce que Il est bien vrai que le monde prétend à la sagesse et se fait fort, finalement, d'organiser le monde, d'organiser la vie, avec une sagesse que nous appellerons humaine. Mais il y a une autre sagesse qui nous est révélée sous le conseil de Dieu et que nous allons découvrir et dont nous allons nous mettre à l'école. Nous avons dans le chapitre 30 des proverbes de ce livre d'exception une suite cohérente et étonnante de réflexions propres à nous amener à peser, à coordonner et à fixer nos pensées et nos actions selon la volonté de Dieu. Jésus nous a appris dans le Notre Père à dire tout simplement « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel ». Et je crois que le souci certainement permanent d'un chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. Alors, nous avons justement, en quelque sorte, à travers ces quelques paroles, une réflexion qui peut nous amener, avec la grâce du Seigneur, à devenir sage. Ouais. On dit souvent aux petits, sois sage. On le dit moins aux grands parce qu'on pense que la sagesse est acquise. Mais quelquefois, il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais enfin bon, par défaut d'attention, le risque est la folie. On le sait, c'est le contraire, naturellement. Alors, laissez-moi donner quelques mots sur la folie. La folie, nous dit la Bible, c'est l'état d'un cœur, parce que ça se passe ici. C'est pas seulement dans la tête, mais ça monte du cœur, dont la sagesse forcément est absente, un cœur qui est conduit par sa propre volonté, et qui pense que dans cette volonté-là, sa volonté propre, sa volonté personnelle, eh bien c'est de la sagesse. C'est quand même assez étonnant parce que dans l'Écriture sainte, vous savez ce que nous dit Jacques, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Or, il faut bien constater que si on ne la demande pas, c'est qu'on pense qu'on est sage. Et c'est précisément un manque de sagesse. Alors, nous allons voir un peu dans comment articuler les choses. Donc, la folie, c'est de fonctionner, d'être conduit, d'être amené à faire notre propre volonté. Je ne dis pas que dans notre propre volonté, il n'y a pas des bonnes choses. Mais on parle de la folie. Les convoitises, et puis aussi un fléau dans la race humaine, dans l'espèce humaine, c'est l'ambition. Avec ce qui l'accompagne, l'ambition soutenue par l'orgueil, animée par l'orgueil. Un fou, Jésus nous en parle par rapport à la construction sur le sable, un fou est quelqu'un qui a perdu la raison. Un fou, c'est quelqu'un qui n'a aucune crainte. Il se moque du ciel, de la terre, des hommes, de tout ce qui pourrait arriver. Il est fou. Et c'est quelqu'un qui est livré à lui-même et il va où son cœur le porte, puisque nous avons dit que c'était quand même l'élément moteur, le cœur de l'homme. Mais il se précipite sans le savoir, en sachant, en croyant en tous les cas qu'il sait, mais il se précipite sans le savoir vers sa propre ruine. Parce que vous connaissez ce verdict biblique, que ce que l'on sème, on le moissonnera. Ça, c'est la Bible qui nous le révèle. Il y a peut-être une sagesse humaine qui dit la même chose, mais je crois que la Bible est avant tout notre référence. Et nous voyons que, sans en connaître l'aboutissement, craignant peut-être les conséquences de ces folies ou de ces facéties, mais n'y croyant pas suffisamment pour l'arrêter. Donc, il ne sait pas, mais pourtant la Bible nous dit qu'il y a un aboutissement à tout cela. On connaît deux choses sur Agur. Je reviens à mon personnage qui parle. Il nous est dit qu'il a parlé de la part de Dieu sans s'en attribuer aucun mérite. Et ça, c'est formidable. C'est un oracle de Dieu. Il est porteur, il est porte-parole de Dieu, mais il n'en tire aucune glorification pour preuve. Lorsque nous reprenons tout simplement les deux premiers versets, ils sont assez choquants quand même, faut bien le reconnaître. Il dit « Certes, je suis plus stupide que personne ». Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Et il le dit de lui-même, parce que quelquefois on le dit des autres. Mais lui, il se l'attribue à lui-même, tout simplement. Alors, voilà comment cet homme se comporte. Ce qui distinguait Agur, l'homme inspiré, parce qu'il est vraiment inspiré de Dieu, c'est qu'il était le contraire d'un sage, se croyait-il. Et il en avait conscience, et il n'hésitait pas à le dire, puisqu'il parle de sa propre stupidité et de son intelligence. Se condamner soi-même est quelque chose, quand même, de très rare. Très souvent, la réaction humaine, c'est que on a beaucoup plus tendance à juger et à condamner les autres que de se condamner soi-même. Et pourtant, la Bible nous renvoie à nous-mêmes, ce qu'on appelle la repentance, une prise de conscience, et ensuite la repentance qui nous ouvre nécessairement le salut de Dieu. Et nous voyons que dans notre texte, il se condamne, il porte un jugement sur lui-même, d'autant qu'il va être en quelque sorte le messager de Dieu. Et quand on a cette responsabilité, eh bien, je pense qu'on n'est pas au service de n'importe qui. On est au service de la parole. On est au service du Verbe. On est au service de celui qui sait tout, qui connaît tout. Il y a un autre prophète dans la Bible et qui a fait la même expérience, il s'appelle Asaph. Je voudrais dire quand même pour votre connaissance, c'est qu'Asaph et Agur, eh bien, ont le même sens. Ça veut dire tout simplement qui réunit. Et s'il y a quelque chose qui doit réunir autour de Dieu et en Dieu, c'est la sagesse que Dieu nous donne. Un chrétien, des disciples de Jésus-Christ se reconnaissent quand même à une certaine sagesse, qui n'est pas une sagesse humaine, mais une sagesse inspirée par la parole, inspirée par l'esprit. Donc, un autre homme, il s'appelle Asaph, et il dit des choses aussi assez surprenantes, parce qu'il parle aussi de lui-même, et c'est bien qu'il en parle de la manière dont nous avons sous les yeux. Et au chapitre, le psaume 73, et au verset 16 à 17, il est dit ceci, il dit voilà, quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, le verset 16, « La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et les mets en ruine. » Et un peu plus loin, verset 22, il dira ceci, « J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. » Donc, vous voyez, il y a une similitude, non seulement au niveau de la signification des noms, mais également dans l'état d'esprit. Ce sont deux hommes qui servent Dieu. Et voilà comment ils se considèrent. Ce que nous croyons connaître nous dit que nous ne savons rien. Et la Bible nous dit que nous ne savons rien à côté de ce que nous attend dans la dimension de l'éternité. Vous avez certainement tous, ou peut-être pour les plus anciens, entendu cette chanson d'un monument du cinéma français, c'était Jean Gabin qui chantait « Je sais ». Vous avez peut-être entendu, ça vaut la peine, hein, même pour les jeunes, hein, croyez bien. Hein. « Je sais ». Alors il explique la vie d'un homme, quand il a 18 ans, quand il a 25 ans, quand il est dans l'âge mûr, et ensuite quand il est vieillard. Et à la conclusion, il dit ceci, que quand il est jeune, il dit « Je sais ». Dans toute sa vie, il dit « Je sais », avec une certitude, il savait tout. Et à la fin de sa vie, il dit « Je ne sais rien ». Ça vaut la peine de l'écouter, parce que même si c'est finalement profane, il y a quand même quelquefois des bonnes leçons. Alors, nous apprenons à l'école de Dieu que très souvent, sur bien des choses, nous ne savons pas grand-chose, nous ne savons rien. Or, ce jugement sur soi-même, comme nous l'avons vu sur Asaph et puis Agur, nous enseigne à l'évidence, comme le personnage de notre lecture, qu'on ne peut être la bouche de Dieu, c'est-à-dire parler, prêcher, témoigner, enseigner, parler de Dieu, tout en gardant une haute opinion de nous-mêmes. Une haute considération de ce que nous sommes. Et, je voudrais quand même le dire ce matin, ce n'est ni le titre, ni la fonction qui nous donne des droits supérieurs aux autres. Ni le titre, ni la fonction, est ce que nous pouvons dire. Jésus a choisi parmi ses disciples des hommes très modestes dans la société de son temps. Et je crois que ce qui doit caractériser l'Église de Dieu, les hommes de Dieu, pasteurs ou autres, ça doit être la modestie et l'humilité. Vous savez que Jésus nous donnera une bonne leçon, en donnera une bonne leçon à Jean et à Jacques un beau jour. Nous voulons être assis à ta droite lorsque tu viendras dans ton règne. Quelle question! C'est vrai que c'est beau, hein? Jésus dira, écoutez, vous regardez maintenant un peu plus bas, et il va prendre un petit enfant, il va le donner en exemple. Il vous dit, si vous n'êtes pas humble et modeste comme un petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors je crois que c'est une leçon qui nous est donnée à travers ce livre des Proverbes, d'ailleurs c'est le livre des leçons. Cette prophétie d'Agur met à nu la folie des hommes, tous, et j'ose le dire ce matin, y compris les enfants de Dieu. Ouais. Nous sommes tous logés, permettez-moi de le dire, à la même enseigne, même les enfants de Dieu. Et Jésus, la pensée me vient spontanément, lorsqu'il s'agira de gérer les affaires, il dira, mais les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Alors c'est pour vous dire, quelquefois il y a des choses dans la manière dont nous traitons les problèmes, où nous prétendons certaines choses, nous pourrions peut-être apprendre, finalement, de l'extérieur, certaines leçons par-delà eh bien, ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et je dis que cette parole met à nu donc la folie des hommes quand ils pensent rehausser les valeurs de la révélation divine et les rendre plus efficaces par toutes sortes de moyens humains. Ouais. Comme si Dieu avait besoin d'aide et d'un coup de main pour réaliser ses plans. Pour ce faire, les moyens utilisés sont divers. Mais une expression les résume tous, c'est le mot « sagesse humaine ». Vous savez que Paul, qui était un universitaire, un homme qui avait quand même une haute pensée pour son temps, et à travers tous les temps, elle est demeurée, a combattu vigoureusement contre la sagesse humaine religieuse. Colossiens a été écrit à cet effet, nous mettant en garde contre les philosophies et toutes sortes de choses. Et cette sagesse humaine se décline à travers des plans, à travers des stratégies, à travers des recettes, à travers des méthodes, à travers des études, à travers toutes sortes de choses. Dans une certaine mesure, nous pouvons bénir le Seigneur, mais lorsque ça outrepasse et que l'homme en tire une glorification au détriment de Dieu, eh bien c'est voler Dieu quelque part. C'est voler Dieu. Et c'est vite oublié que cette sagesse-là rend vaine la croix de Jésus-Christ. Et Paul l'écrira en toutes lettres lorsque nous lisons ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Il dira, je ne suis pas venu vers vous avec la sagesse humaine, avec des discours, avec de la rhétorique, avec toutes sortes de choses, mais je suis venu tout simplement avec une démonstration de puissance et d'esprit. Et c'est ça ce que nous avons besoin encore dans notre monde. C'est pas des beaux discours, c'est pas des beaux sermons, c'est véritablement la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et Paul l'a souligné. Et cela, en effet, si nous enlevons, eh bien, nous rendons vain la croix de Jésus, on lui enlève sa puissance et nous la privons de ses résultats. Et peut-être que le malheur de nos églises du XXIe siècle, c'est parce que justement, eh bien, nous y avons mis de l'humain, beaucoup trop d'humain, pour compenser peut-être quelquefois les silences de Dieu, il faut bien le reconnaître, ou les attentes de Dieu dans le miracle et le surnaturel. Alors nous avons été un petit peu au charbon et nous avons dit, bien Seigneur, puisque tu ne fais pas, c'est nous qui faisons. Puisque tu ne dis pas, c'est nous qui disons. Et toutes sortes de choses semblables. Alors on en arrive à un silence complet de Dieu. Et peut-être Dieu peut regarder ses enfants, ou peut-être même ses serviteurs en disant, ben, puisque vous faites tout, ben, continuez. Moi j'ai plus rien à faire, je me repose. Et c'est une véritable tristesse. C'est une véritable tristesse. Il y a un mot qui est choquant, c'est le mot stupide. Alors, c'est Agur qui le dit, C'est Asaph aussi qui le dit aussi. Ne soyons pas stupides, n'éteignons pas l'Esprit de Dieu et ne l'attristons pas par ce qui n'est pas à proprement parler le péché ouvert, grossier, tout ce que vous voudrez, mais à travers toutes les subtilités de l'intellectualisme et de toutes sortes de choses qui font que, eh bien, Dieu est plus sage que nous. À l'évidence, Dieu restera toujours plus sage et restera avec des longueurs et des longueurs et des années-lumière devant nous. Finalement, que croyons-nous savoir? Alors, peut-être vous me répondrez, mais moi, je connais ma Bible. Et c'est bien. Je connais l'Évangile, je connais Jésus, je connais les Épîtres, je connais les noms des 12 tribus d'Israël, vous rendez compte? Formidable, hein? Eh oui, la composition du tabernacle, dans les moindres détails, centimètre par centimètre. Ouais. Moi, je ne les connais pas, hein, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, les choses sont ainsi. Alors, il est dit ceci, puisqu'il est question de la sagesse, voilà l'interpellation. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Ça nous rappelle un verset du Nouveau Testament, ça. Hein, qui a recueilli le vent dans ses mains? Vous connaissez la corde à... Oui. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Là, on était trempés hier, hein. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Alors là, vous allez me répondre. Le sais-tu? Le sais-tu? Vous avez remarqué? Qui? Le sais-tu? Attention, chacun est tenté de répondre rapidement et facilement aux questions qui sont posées. Mais attendons prudemment la fin du message pour se prononcer. Nous allons aller en avant. Et on va vite s'apercevoir que ce n'est pas ce que l'on sait qui est le plus important, comme je l'ai entendu tout à l'heure dans une louange, mais ce que l'on est. C'est pas ce que l'on sait. On peut avoir une tête, une grosse tête, à 8, 10, 12 étages, aussi haute que le World Trade Center. Et vous savez qu'il a dégringolé, hein? Vous savez ça. Mais une chose qui est certaine, c'est pas tant ce que l'on sait qui est important, ce que l'on est. Notre vie. Et de ce que l'on est, va découler ce que l'on fait. Et puis de ce que l'on va dire, etc., etc. Alors, Agur, celui qui se dit si stupide, peut dire que personne vraiment n'a la connaissance des choses visibles de la création. Alors peut-être il est passé de l'eau sous les ponts, hein, depuis. Hein. C'est un homme de l'ancien temps. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a bien des questions qui seraient répondues. Les choses visibles de la création, les cieux, le vent, les eaux, la terre, pour résumer. Alors tout ce qui est sur notre monde matériel, on en connaît, on a fait certainement des découvertes formidables et c'est bien. Mais en ce qui concerne le ciel, mis à part quelques petits projectiles que l'on envoie à quelques centaines de kilomètres au-dessus de notre tête, il y a quelque chose d'éblouissant, il y a quelque chose d'étonnant, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Hein. C'est extraordinaire, là, nous avons un beau printemps ensoleillé, etc., etc. Mais quand les nuages s'écartent de temps en temps, vous savez que c'est toujours un plaisir, quelquefois, de passer un bon moment en regardant le ciel, en regardant les étoiles. Aujourd'hui, les gens regardent la petite étoile, vous savez, là, ça s'appelle la télévision. Bon, moi, je n'y vois rien, pas d'inconvénient. Mais on ne sait plus regarder le ciel. Et quand on regarde cette immensité, quand on regarde cette majesté, moi, j'y vois la main de Dieu et la création, naturellement. Alors, à ce moment-là, je me dis, mais la plus petite étoile qui brille, là, au firmament, elle est immense! Et aller à... C'est inimaginable ce qu'elle peut représenter. Et moi, je suis qu'une petite fourmi au milieu de tout ça, mais je suis moins qu'une fourmi, je suis rien du tout. Et l'homme, il gonfle la poitrine, il se dit, ah, moi, je suis quelqu'un. Et il se prend pour une star. Voilà. Eh oui, c'est comme ça que les choses se passent. Alors, les choses visibles de la création, les comprendre, les saisir, les contenir, et encore moins, nous ne pouvons pas les diriger. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Dans le week-end que nous avons, il y avait des gens qui espéraient avoir du beau temps. J'ai entendu dire que les paysans voulaient de l'eau. Ils ont gagné. Et le jour où on va pouvoir maîtriser tout ça, je peux vous dire qu'il va y avoir des conflits. Hein. Ça va certainement friter. Excusez-moi l'expression, c'est pas beau. Hein. Mais il va y avoir de la friture sur la ligne. Hein. Ça, c'est clair. Et qu'est-ce que l'on peut faire ? Quel pouvoir nous avons ? Et nous pensons diriger les choses. On a déjà du mal avec à nous entendre la 27, et puis les problèmes de... Bon, vous les savez, je ne veux pas vous les rappeler, ça vous mettrait le moral par terre, mais c'est vrai que notre observation en tant qu'homme peut jusqu'à un certain point nous rendre compte, finalement, de notre univers autour de nous. Mais la manière dont elles ont été faites, établies, mises en ordre, ça nous échappe. Vous vous rendez compte ? Que tout est réglé, excusez-moi, j'allais dire comme du papier à musique, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et ceci et cela, etc., les marées. C'est toujours changeant, hein, mais ça ne varie pas, hein, vous savez, ça, je veux dire que c'est constant. Et il suffit qu'il y ait hein, une petite perturbation, hein, on l'a vu avec le volcan, l'autre jour, tout le monde est ternué. Hein. Enfin, c'est surtout dans les avions. Mais quand même, je veux dire que Dieu a réglé les choses. Bon. Elles sont encore vivables. C'est encore... On peut vivre encore. Et l'homme est en train de bricoler toutes sortes de choses pour essayer de détraquer un peu toute la machine. Mais il va y arriver. Hein. Ça commence à... C'est sûr. Hein. Je ne suis pas en train de faire de l'écologie, mais je suis en train de montrer que Dieu est au-dessus de tout. Et ça, ne faut pas l'oublier. Parce qu'avec toutes les informations que nous avons, tout ce que nous recevons comme toutes sortes de choses qui nous sont projetées, on se dit, mais quelque part, mais Seigneur... Qu'est-ce que l'homme prétend dans tout cela ? Qu'est-ce qu'il prétend ? Alors, c'est vrai que tout cela, ça nous échappe. Job écrit ceci, c'est Dieu qui parle par Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ?» Vous savez où vous étiez, non ? Moi, j'en ai un vague souvenir. Enfin, même pas de souvenir du tout. Je sais que je suis là. Et vous aussi, vous êtes là. Hein, c'est le principal. Et nous sommes doublement là parce que nous avons une vie qui vient de cette création, mais nous avons aussi une vie qui procède de la rédemption. C'est pour ça que nous pouvons comprendre, avec la grâce de Dieu, que nous pouvons comprendre toute cette beauté, cette magnificence. Parce que ceux qui n'ont que la première vie, bah, ils peuvent comprendre qu'avec leur intelligence et leur raisonnement. Alors, où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Une seule réponse, toute modeste. J'aime bien cette réponse parce que je crois qu'elle est très succincte. Il n'y a pas grand commentaire à faire derrière, mais écoutez, c'est par la foi que nous connaissons ou que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Merci Seigneur, c'est la dimension de l'esprit. On a essayé de nous convaincre qu'on descendait de... Vous savez ? Je vous dis pas le mot, mais vous avez entendu, c'est... Ben, j'ai du mal à le croire, hein, franchement. Mais bon, c'est comme ça. Chose visible. Alors comment maintenant expliquer les choses invisibles et Dieu lui-même ? Vous savez qu'il y a une infinité de livres qui ont été écrits sur Dieu. Mais il faut s'en référer au livre qui est inspiré, qui est le livre de Dieu. Celui-ci nous renseigne. Mais tous les hommes, ils ont écrit beaucoup de choses sur Dieu. Ça a été décliné des millions et des millions de fois. Alors, on a suffisamment dans notre Bible de quoi expliquer certaines choses, et puis il y a des mystères que nous ne comprendrons pas. Alors, ce n'est pas la peine. Ce que tu ne comprends pas maintenant, dit Jésus à Pierre, tu le comprendras bientôt. Et quand on va arriver, quand on va être propulsé dans cette autre dimension, celle de l'éternité, dans une dimension qui sera toute différente de celle de notre condition humaine, dans ce corps d'humiliation, alors je crois qu'il va y avoir un éblouissement. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Ce sont des paroles que nous ne pourrions pas trouver, que nous ne pourrions pas mettre, tellement les choses sont en dehors et au-delà de notre, par-delà notre langage humain. Mais en tous les cas, nous pouvons toujours déjà nous en réjouir, parce que nous avons les arts de l'esprit aujourd'hui. Les arts de l'esprit. Quel est son nom ? Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Merci Seigneur de me l'avoir fait connaître ce nom sauveur. Qui peut réellement l'apprendre? Eh bien, c'est le verset 5 qui nous le dit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Qui peut nous l'apprendre? Toute parole de Dieu est éprouvée parce qu'il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est la réponse pour celui qui se questionne. Il est la solution à celui qui est perplexe devant toute cette grandeur et cette magnificence. C'est par elle que nous connaissons Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle Dieu lui-même dans ses attributs, dans ses prérogatives. Et celui, comme un des disciples dira et questionnera, c'est Philippe qui vient vers Jésus en disant « Montre-nous le Père ». Et Jésus de lui répondre, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Connaître Jésus, mais c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux. Parce que nous connaissons celui qui va être pour nous le chemin, la vérité et la vie, mais qui va nous donner accès à ce Père. C'est-à-dire, ça c'est le vrai savoir. On n'est pas là pour rivaliser avec les savoirs humains. Mais moi je dis qu'au fond de mon cœur, par la parole et par l'esprit qui confirme la parole et qui dit amen au fond de moi-même, alors je sais que ça c'est le vrai savoir. Alors ce vrai savoir, eh bien je tiens à le dire tout de suite, on en reparlera d'ici quelques instants, mais il doit nous garder dans vraiment la modestie et l'humilité. Ça ne vient pas de nous, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et le vrai savoir conjugué avec l'expérience que nous en faisons. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons fait une expérience. Nous avons fait quelque chose, nous avons rencontré Dieu, nous avons vécu quelque chose avec Dieu qui a bouleversé, qui a transformé notre vie. Nous ne sommes pas des chrétiens de tradition ou des chrétiens de naissance par un baptême quelconque, mais nous sommes véritablement, eh bien, nés de nouveau et on se souvient de notre conversion. Pour certains, ça fait des années, mais c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de tellement beau. Et après des années, on s'en souvient encore et on remercie le Seigneur par l'expérience. J'étais malade et il m'a guéri. J'étais perdu et il m'a sauvé. J'étais tourmenté par la mort et il m'a donné la vie. J'étais sans joie, sans paix et il m'a donné, eh bien, tout cela. Alors c'est l'expérience et j'ai réalisé à ce moment-là que sa parole me disait vrai à ce moment-là. J'ai cru et je suis convaincu aujourd'hui qu'elle est toujours vraie. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Et c'est peut-être dans notre condition de misère. C'est parce que nous avons été peut-être dans la misère que nous avons appelé, non pas les hommes seulement, mais nous avons surtout appelé le Seigneur. Et il nous a répondu. Précieux recours pour les pauvres créatures que nous sommes. Il est notre ultime défenseur. Il est un bouclier. Et un bouclier, c'est une protection. Et il demeure mon bouclier. Cependant, l'homme doit se garder d'une chose, le verset 6. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. C'est une gravité d'ajouter à ce qu'il a dit au lieu de se laisser instruire. Oui, on dit souvent aux enfants, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Eh bien, Dieu pourrait nous dire quelquefois, tu ferais mieux de te mettre à mon école, comme la fameuse Marie au pied de Jésus qui était là pour recevoir ses sublimes paroles. Et quelquefois, eh bien, ce que nous faisons ce matin, c'est que nous sommes au pied du Seigneur pour recevoir ses paroles. Nous sommes là en instruction ce matin. Et nous ne sommes pas là à étaler notre savoir. Le meilleur moyen d'être préservé, c'est de rester humble et soumis comme Agur. Et là, n'hésitez pas à prendre les grands moyens. Je suis stupide. Je suis sans intelligence. Celui qui parle pour Dieu a 2 choses à demander. C'est le verset 9. On continue. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Verset 7, pardon. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, c'est ce que j'ai lu un petit peu à l'avance. La première a trait à sa condition morale. Deux objets dont nous avons besoin de nous tenir éloignés de nous-mêmes. La vanité. La vanité, vous savez ce que c'est que la vanité ? C'est du vent. Ce qui est dit ou fait dans le but d'impressionner autrui. Se donner la valeur qu'on n'a pas. C'est ça de la vanité, tout simplement. Ensuite, la parole mensongère, opposée à la parole de vérité. Seule la conscience de ce danger peut nous y faire échapper et ensuite demander à Dieu son aide, d'en être gardé pour ne pas y succomber. Seigneur, donne-moi ta grâce. S'il y a une chose que nous pouvons demander tous les jours au Seigneur, c'est qu'il nous donne vraiment la sagesse et qu'il nous donne de rester modestes à nos propres yeux. Quand on est élevé en dignité, à quelque niveau que ce soit, c'est vrai qu'on a peut-être tendance, et les gens sont autour de nous. Et parfois, c'est peut-être pas la personne lui-même, mais c'est son entourage qui fait en sorte de monter. Vous avez vu, chez les artistes, chez les stars, hein, les hommes politiques, c'est tout un environnement qui fait que... Alors bien sûr, on s'y prête à tout cela. C'est tellement humain, mais c'est tellement dangereux. La deuxième chose en question se rapporte à notre position matérielle. Vous l'avez lu avec moi. Il est dit « ne me donne ni pauvreté ni richesse ». Vous connaissez bien ce verset. Le maître mot en est « compter sur lui », ce qui se traduit par le désir. Tout simplement, je désire n'être matériellement ni indépendant, ni dépendant des circonstances. Je dépends du Seigneur. Paul l'écrira bien dans Philippiens, il écrira des mots formidables et merveilleux. Et par la grâce de Dieu, j'ai tout reçu. Ouais, parce que Dieu est riche. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Et nous sommes dans une société où on est toujours mécontent. Où on développe le mécontentement, le murmure et l'insatisfaction. La Samaritaine avait déjà une longueur d'avance sur nous, hein, vous connaissez. Ouais. Et c'est ça. Alors Seigneur, je désire n'être ni indépendant ni dépendant des circonstances, c'est-à-dire dans la richesse et le rassasiement d'en finir par oublier ton nom, mon Dieu. Parce que j'ai tout autour de moi. Je possède tout, je peux tout acheter. Alors je finis par oublier mon Dieu, ou dans la pauvreté, chercher à s'approprier ce qui ne m'appartient pas, en violant le 8e commandement qui dit « Tu ne déroberas pas ». C'est l'un ou l'autre. Et nous sommes dans une société aujourd'hui qui en fait la démonstration, hélas. Et richesse et pauvreté ont leurs écueils. Se passer de Dieu ou bien le déshonorer. C'est l'un ou l'autre. En faisant des choses qui sont répréhensibles moralement, volées. Ou alors de dire « Eh bien j'ai tout, j'ai mon contentement, alors j'ai pas besoin de Dieu. Je suis mon Dieu moi-même. » Avec ma sagesse, avec ma science, avec mon travail, avec mon habileté, et puis tout ce que je veux. Alors Seigneur, je t'oublie. La seule ressource pour y pallier, c'est cette simple prière. Fais, Seigneur, que j'ai toujours et entièrement besoin de toi. À partir du moment où je sens et je suis conscient que j'ai besoin de Dieu à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, alors à ce moment-là, je reste dans la note. Je reste dans la ligne. Il est plus grand que moi, mon Dieu. Il est plus grand que chacun d'entre nous, et nous avons besoin de lui. Fais que j'ai besoin de toi, Seigneur. Et ça, je crois que c'est le secret pour être vraiment heureux. Vraiment. Sincèrement heureux. Toutefois, dans la pratique, de ce que je sais ou je ne sais pas, je fais ou je ne fais pas, il nous appartient de ne pas juger les autres. Ça, c'est une autre leçon qui découle. Le verset 10. « Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. » Et s'il y a quelque chose qui est vraiment très épidermique, réactionnaire chez l'homme, c'est juger les autres. Vous savez que Jésus s'est investi complètement et totalement dans la bataille contre les jugements. Péremptoires, les jugements assassins, et particulièrement venant des gens religieux de son temps. Oh, c'était pas les prostituées, les gens de mauvaise vie, non. Non, non, c'était les gens collés montés. Eux se permettaient finalement de dire « Quel pauvre homme, quelle pauvre fille, vous rendez compte, le travail qu'elle fait ?» Ah oui. Alors c'est quelque chose, ne pas juger. Paul nous en parle dans Romains au chapitre 14, verset 4, je lis simplement, je restitue. « Mais qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et moi je dis « Merci Seigneur ». Et je crois que nous avons besoin d'apprendre dans nos églises à ne pas juger, ou à juger selon la vérité. Et même quand nous jugeons selon la vérité, il nous faut juger avec bienveillance et compassion. Vous connaissez les textes, hein ? Cet état d'esprit de dénigrement d'autrui vient de notre fâcheuse tendance à excuser ou à masquer nos propres travers en les comparant à ceux des autres. Et quand on compare avec ceux des autres, on exagère les fautes des autres. Souvent, on exagère. Il y a un péché qui naît de cela, c'est la jalousie. Et ça, je peux vous dire que c'est le pire de tous les cancers. Et il fait des métastases un peu partout. La jalousie et la frustration, le refoulement de ce qu'il y a à l'intérieur, ils sont pour quelque chose dans tout cela. Aussi, cette tendance de s'excuser en accusant. Une vieille formule qui ne se lasse pas d'être à la mode, c'est que finalement, cette tendance que nous avons innée à rejeter sur l'autre, c'est le maître qui juge et pas nous. Nous l'avons lu dans Romains il y a un instant. Dans Matthieu, et il faut aussi peut-être prendre les paroles de Jésus, dans Matthieu au chapitre 7, nous avons aussi cette parole particulière que je retrouve tout simplement, voilà. Qu'est-ce qu'il est dit ? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ça, on l'oublie. Hein. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et que toi, tu ne vois pas la poutre ? C'est parce que tu as une poutre que tu ne vois pas très clair. Et une poutre, c'est quand même assez gros. Enfin, en principe, vous savez ce que Dieu nous demande ? Contentons-nous d'être fidèles. Ça, c'est une chose importante. Dans notre texte apparaît maintenant quatre principes, je vais les passer brièvement, quatre principes, principes à suivre ou à éviter. C'est selon. Autour de nous, que voyons-nous qui ressemble à notre race, qui est traduite dans notre Bible par génération ? On va le lire. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'a pas lavé sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Soit quatre choses que je qualifierais d'affreuses, dont Dieu a en horreur et dont les enfants de Dieu ont besoin de se tenir en garde. La première chose, c'est la révolte contre l'autorité. On l'a lu. Il est une race qui maudit son père et sa mère. C'est le mépris des liens familiaux. Une chose que nous avons besoin de nous souvenir, que dans les 10 commandements, il est dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Avec une promesse dans le Nouveau Testament qui est donnée, qui est ajoutée, afin que tu sois heureux sur la terre. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose dont nous avons à nous tenir en garde, c'est la suffisance ou la propre justice qui couvre, qui travestit le péché. Ça, c'était le problème des pharisiens. La troisième chose, c'est l'orgueil, qui est une effronterie épouvantable. C'est se croire ce qu'on n'est pas. La quatrième chose, c'est la méchanceté. C'est l'absence de cœur et de miséricorde pour les faibles et les petits. On l'a lu il y a un instant. Quand les symptômes de ces traits apparaissent au milieu du peuple de Dieu, je le rappelle, la révolte contre l'autorité à quelques niveaux, en commençant par les parents. La suffisance ou la propre justice, l'orgueil, la méchanceté. Alors je dis bien, je rappelle, quand ces traits apparaissent au milieu du peuple de Dieu, c'est le signe que le niveau spirituel s'est complètement affaissé. Alors n'allons pas dire que nous sommes spirituels s'il y a des choses comme ça au fond de notre vie et qu'elles existent dans l'Église. C'est la parole qui le dit. Parce que là, à ce moment-là, c'est tout simplement du sophisme. On se fait des idées. C'est une vaste illusion de croire ce que l'on n'est pas. Parce que la méchanceté, parce que l'orgueil, parce que la propre justice ou la révolte, c'est quelque chose qui ne peut pas s'allier avec, finalement, la pensée de Dieu. Je le disais vendredi soir, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Vous comprenez que ça ne va pas ensemble. Que les fidèles prennent conscience et qu'ils prient. S'il y a un sujet dans lequel nous avons besoin de nous tenir devant Dieu, c'est bien celui-ci. Parce que le Seigneur est capable d'entendre nos prières, d'entendre l'aspiration de nos propres cœurs à changer, à être transformé, à régénérer, parce que nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu est fidèle, il exauce, parce qu'il est un bouclier pour ceux qui s'attendent à lui. Tout simplement. Et voici pour terminer une dernière série de réflexions qui caractérise le fond du cœur des hommes, à savoir la convoitise. La convoitise, c'est ce désir insatiable d'avoir, de posséder, de détenir, d'acquérir n'importe quoi, hélas, n'importe comment, au détriment, souvent, de notre frère ou des autres. Le verset 15. La sangsue, c'est bizarre hein, comme texte, hein, la sangsue a deux filles, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez, le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée, et le feu qui ne dit jamais assez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les deux filles de la sangsue, vous les connaissez? Ont un nom. Donne. Vous savez ce que c'est qu'une sangsue, hein? On le dit quelquefois pour des gens qui sont pleins d'avidité. C'est une sangsue. Très élégant. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la soif de jouissance, et j'ajoute égoïste, parce que ça c'est un mal, l'égoïsme, qui régit le monde, que nous rappelle Jean dans son épître, vous connaissez, chapitre 2, et versets 15 à 16, il nous est dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et puis toutes sortes de choses. L'égoïsme roi. Vous vous souviendrez que quand Paul écrit son épître à Timothée dans les pastorales, me semble-t-il, il dira en premier lieu et cité en avant, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, les hommes seront égoïstes, avant tout le reste. » L'égoïsme roi. Quatre comparaisons pertinentes que nous avons lues, je rappelle simplement pour mémoire. Le sépulcre qui engloutit les morts sans jamais rien rendre. Ça, c'est une vérité. La deuxième chose, c'est la femme stérile qui reçoit la semence sans produire d'enfant. Deuxième vérité. La troisième vérité, c'est la terre aride qui boit la pluie sans donner de fruits. La quatrième vérité, c'est que c'est le feu qui dévore tout ce qu'il trouve à brûler sans jamais s'éteindre. Voilà ce que nous dit Agur. Quelle leçon à méditer sur le péché de l'égoïsme. On a tous une part d'égoïsme. Ça, c'est clair. Mais chez certains, elle est plus prononcée que chez d'autres. Et vous dites à un égoïste qu'il est égoïste, il dira non. Hein. Comme un orgueilleux, tu es orgueilleux. Ah non, moi je suis très modeste. Comme ça, vous avez la preuve qu'il est orgueilleux. Il faut écouter les réponses. Hein. C'est très instructif quelquefois. Alors, l'égoïsme. Le moi insatiable qui répète sans cesse « donne » et qui ne dit jamais « assez ». Vous savez que Dieu nous a donné. Et si nous voulons retenir, si nous voulons conserver, vous savez ce que nous dit Jésus ? Celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la donnera, eh bien la retrouvera. Et ça, c'est le principe. Il y a un principe dans la Bible, c'est le principe, je le rappelais hier soir aux jeunes dans la réunion de jeunesse, c'est le principe de donner et du sacrifice. Si nous sommes capables de donner et de faire des sacrifices, mais Dieu va nous rendre. Il va nous redonner, il va le multiplier. Et si nous voulons le garder pour nous, eh bien nous le perdrons. Ça, c'est clair. Le verset 17, et je termine. Ce verset 17, bien compris, peut aider à mettre un bémol, je connais rien à la musique, mais enfin bon, c'est une expression, à nos goûts immodérés d'avoir au lieu d'être. Et qu'est-ce que nous dit le verset 17 ? L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, ça ne doit pas être la bonne référence, excusez-moi, mais peu importe. En tous les cas, on reste sur l'égoïsme. C'est une sentence quelque peu effrayante liée comme au verset 11. Le verset 11 nous disait « Il est une race qui maudit son père et sa mère ». Oui, on y revient, absolument. au mépris de l'autorité et à la désobéissance qu'un seul mot qualifie justement de révolte et d'indépendance. En d'autres termes, je fais ce que je veux et je fais ce qu'il me plaît. Ça, c'est la maxime d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Je fais ce qu'il me plaît. Mais c'était le sujet de vendredi soir et nous avions parlé de Lot. Lui, il a fait ce qu'il a voulu, il a fait ce qui lui a plu. Mais le problème, c'est qu'il a tout perdu. Voilà. Et si nous savons véritablement, dans une réflexion saine, comprendre ce que nous dit la parole de Dieu, on va comprendre que si véritablement on veut avoir la bénédiction et s'enrichir, eh bien, il y a des choses qu'il faut absolument régler dans notre vie. Entre autres, l'obéissance, se séparer de la révolte, de l'égoïsme. Je fais ce que je veux, je fais ce qu'il me plaît, tant pis pour les autres. Et c'est la base de tout mal que la parole de Dieu appelle l'iniquité. Vous connaissez ce mot, hein, dans le Nouveau Testament. Et on sait tous que le péché attirera inexorablement un jugement. Moi, je ne prêche rarement le jugement, parce que je crois davantage à la grâce. Et Jésus le dira d'ailleurs, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Et le message d'un prédicateur, ce n'est pas un message de jugement, c'est un message de grâce, pour ceux qui vont vers le jugement, pour qu'ils reviennent finalement de leur voie, et qu'ainsi, ils puissent recevoir la grâce et le pardon de Dieu. C'est ça l'évangile. Moi, je suis un croyant du Nouveau Testament. Je ne suis pas un croyant de l'Ancien Testament, bien que je vous ai prêché dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire que c'est la prééminence. Et je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et Dieu est capable, dans sa grâce et dans sa miséricorde, quoi que l'on ait fait, les bêtises et les sottises que nous avons commises, il est capable de les balayer et de nous dire « Maintenant, je te donne une vie nouvelle si tu veux bien l'accepter ». Et ça, c'est merveilleux et c'est formidable. Et ça, je crois de tout mon cœur à cela, à cette puissance. Même quand on est lié, même quand on est ligoté, même lorsqu'on est au plus profond du malheur, mais le Seigneur est venu pour nous aider, pour nous libérer, pour nous affranchir. Et il veut nous délivrer de ces poisons, de cette intoxication intérieure dont nous avons parlé dans ce livre d'Agur. La conclusion à la question « Le sais-tu ?» parce que c'est la question finale. Le sais-tu ? Le sais-tu ? Voici la réponse de Dieu. Et elle est très claire, elle transparaît à travers toutes les pages de notre Bible. Alors, si tu le sais, qu'est-ce que Dieu nous répond ? Vis-le, crois-le et vis-le. C'est quand même pas trop compliqué l'évangile, non ? C'est très simple. Crois-le et vis-le, mets-le en pratique. Et tu sauras ce que c'est que la sagesse et l'intelligence devant Dieu. Et je termine sur le dernier verset, le verset que nous avons lu en premier, pardon. Parce que la sagesse est toujours justifiée par ses œuvres. La sagesse est toujours justifiée, et je paraphrase, elle est toujours justifiée par les fruits que nous portons. Elle est toujours justifiée par les enfants qui sont dignes de ce nom. Enfant de Dieu, et elle est toujours justifiée par les effets qui en découlent. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Alors vous connaissez Agur maintenant, hein ? Et puis vous savez ce qu'il nous a dit. Mais c'est pas lui qui a dit les choses, c'est Dieu qui nous dit les choses à travers sa bouche. Que Dieu nous bénisse, nous allons simplement prier maintenant et demander à Dieu vraiment qu'il nous donne la sagesse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Parce que tu es un Dieu qui nous a appelés, Seigneur. Tu ne t'es pas contenté d'être notre Créateur. Mais tu es venu, Seigneur, tu t'es proposé pour être notre Rédempteur. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est fait, Seigneur. Alors nous voulons te bénir et te remercier. Parce qu'en effet, Seigneur, si je me repose sur moi-même, si je compte sur mon intelligence, sur mes propres forces, sur ma propre sagesse, mais qui suis-je ? Ô Seigneur, nous te demandons, Seigneur, dans tout ce que nous avons pu étudier, considérer ce matin, que tu nous gardes, Seigneur, en effet, dans des sentiments de modestie et dans des sentiments d'humilité profonde, puisque toi-même tu t'es présenté au monde en disant « Eh bien, je suis doux et humble de cœur ». Alors, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que les principes du royaume de Dieu, ce sont des principes de bonté. Ce sont des principes, Seigneur, en effet, d'abnégation de nous-mêmes, de sacrifice. Ce sont des principes, Seigneur, qui sont ceux, Seigneur, qui glorifient ton nom. Alors je te demande, Seigneur, pour chacun d'entre nous, après avoir écouté, Seigneur, cette parole, eh bien, Seigneur, comme tu nous le rappelles, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et lui sera donnée simplement et sans reproche. Merci, Seigneur, parce que tu as enlevé le jugement de tout cela, et tu nous offres ta grâce. Et c'est dans la grâce que nous voulons vivre, la grâce de ton esprit, la grâce qui est contenue dans ta parole et que nous recevons au plus profond de notre cœur. Aide-nous à vivre ce que nous savons maintenant. Merci mon Dieu, merci Jésus, bénis ton peuple. Amen.